Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir un signe.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, une invitée revient sur un jour important de sa vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Jeanne Benhammer. Bonjour Jeanne Benhammer.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Une journée particulière. Zoé Varier sur France Inter.
Jeanne Benhammer, vous avez été pendant longtemps professeure de français.
Oui.
Avant de vous consacrer totalement, entièrement à l'écriture.
Oui.
Vous êtes poétesse.
Oui, on peut dire ça.
C'est un mot que vous aimez, poétesse?
Est-ce que c'est un mot que j'aime, poétesse? Moyennement. J'aime moyennement. Souvent, moi, je dis, en fait, je suis une femme qui écrit. Voilà. Et ça me suffit.
Jeanne Benhammer, vous avez choisi comme journée particulière un jour d'août 1972. Vous ne vous souvenez plus exactement de la date?
Non, je ne me rappelle plus la date. Je sais juste ça. C'était en août, oui.
Août 1972, ce jour-là, vous décidez de partir en voyage avec votre mère en Italie.
Si vous n'êtes pas italien, ce qui paraît probable pour vous et certain pour moi, quel est le premier visage de ce pays quand vous le découvrirez? Celui, évidemment, de l'Italie touristique. Le mot « tourisme » a pris ces dernières années un goût quelque peu péjoratif. Trop de gens vous disent qu'ils ont fait l'Italie après avoir fait l'Espagne ou l'Allemagne. Disons donc plutôt que nous avons vu l'Italie en voyageurs attentifs. Tant de siècles y ont accumulé leurs trésors qu'il faudrait des années pour épuiser ses richesses.
Jeanne Benhammer, c'est une bonne entrée en matière, non?
Oui.
C'est désuet à souhait.
C'est drôle.
C'est une archive de 1959. Jeanne Benhammer, dans quelles circonstances vous décidez de partir en voyage, de partir en Italie avec votre mère?
Alors, mon père est mort en février 72 et ma mère a vraiment accusé le coup de façon très dure, même si c'était attendu puisqu'il avait un cancer, donc on a su quoi les derniers mois. Enfin, cependant, quand c'est arrivé, c'était atterrant. Et je me suis demandé ce que je pouvais faire de mieux pour elle. Et il y a eu cette idée qui m'est venue, comme quelquefois les idées viennent, on ne sait pas trop comment, mais c'est bien. L'idée d'aller dans son pays, en Italie.
Dans son pays, ça veut dire que votre mère est italienne?
Oui, mes grands-parents sont italiens. Elle est née en France. Mais mes grands-parents sont italiens et ils font partie de cette émigration de la fin du 19e siècle. Mon grand-père était mineur dans le nord de la France. Et donc voilà, j'ai eu envie de la ramener vers l'origine.
Elle connaissait l'Italie? Elle y était allée ou jamais?
Est-ce que ma mère était déjà allée en Italie? Je ne crois pas, non. Non, elle a fait des voyages avec sa sœur après, pas à ce moment-là.
Donc c'était son premier voyage en Italie.
C'était son premier voyage en Italie, et le mien aussi d'ailleurs. Et on est partis toutes les deux. C'était très bien.
Vous aviez quel âge, Jeanne Benhammer?
J'avais 20 ans.
Vous étiez déjà professeure?
Non, je passais le CAPES. Voilà, j'étais en train encore de finir. Je passais les concours, quoi, pour être enseignante. Et voilà, j'ai embarquer ma mère en Italie.
Vous aviez prévu un trajet, Jeanne Benhammer? Vous aviez un itinéraire?
Non, on a prévu juste de se poser quelque part et puis de faire des excursions. Et on s'est posé à Rimini.
À Rimini.
Voilà, pendant 3 semaines.
Comment ça se sont passés les premiers jours avec votre mère en Italie? Elle était contente d'être là?
Elle ne manifestait pas grand-chose parce qu'elle était encore dans ce marasme un petit peu de la mort du père, mais je voyais bien quand même qu'elle avait l'œil qui regardait. Je l'avais vu regarder les oiseaux aussi. Ça, c'était un bon signe qu'elle regarde à nouveau en l'air, qu'elle regarde les oiseaux. Quand on regarde les oiseaux, on regarde ce qu'il y a plus haut que l'horizon et ce qui se déplace. Je trouve que c'est toujours bon signe quand quelqu'un lève la tête comme ça. Je suis sensible à ces mouvements-là. D'ailleurs, ça me fait penser que je l'ai écrit dans le prochain roman, ça. Voilà, le père et la fille italiens qui lèvent la tête pour regarder les oiseaux.
Le prochain roman, c'est-à-dire celui que vous êtes en train d'écrire ?
Celui qui sort en septembre.
Donc vous, Jeanne Benhammer, ce jour-là, en août 1972, le premier signe que vous ayez que votre mère commence à aller un peu mieux après le décès de son mari, c'est ça. C'est ce regard.
Oui, ça c'est un moment.
Et vous parlez ensemble, vous parlez quand vous êtes à Rimini, ces premiers jours ?
On parle, oui bien sûr, on parle les petites choses de la vie, on regarde, moi j'ai envie d'aller à la plage, voilà, nager.
Vous mangez ?
On mange, et puis c'est là qu'il se passe quelque chose.
Ah, on va y venir.
Voilà.
On va y venir à ce qui se passe ce jour-là, d'août 1972, avec votre mère, Jeanne Benhammer, en Italie. En 1972, la chanson qui était numéro 1 au hit parade en Italie, c'était celle-là.
Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
Che cosa sei?
Non vorrei parlare.
Cosa sei?
Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
Non cambi mai.
Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
Proprio mai.
E il mio sempre, inquietudine.
Adesso ormai ci puoi provare. Chiamami tormento, dai, già che ci sei.
Tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
Caramelle, non ne voglio più.
Certe volte non ti capisco.
Le rose e i violini, questa sera raccontali un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento. Si vedrà.
Una parola ancora.
Parole.
Ascoltami.
Parole.
Ti prego.
Parole.
Io ti giuro.
Parole. Soltanto parole tra noi.
Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
Che cosa sei?
No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
Cosa sei?
La romantica notte.
Non cambi mai.
Tu sei il mio sogno proibito.
Proprio mai.
È vero, speranza.
Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai.
Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
Caramelle, non ne voglio più.
Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti.
La luna e i grilli normalmente mi tengono sveglia, mentre io voglio dormire, sognare. L'uomo che a volte c'è in te quando c'è, che parla meno, ma può piacere a me.
Una parola ancora.
Parole.
Ascoltami.
Jeanne Benhammer, tout le monde parle italien en écoutant cette chanson.
Parole. Oui.
Alors, c'est la chanson originale qui a été chantée en 72 par un duo qui s'appelait Mina et Alberto Lupo. Et c'est après Dalida qui reprendra et qui a repris cette chanson. Ça a le goût de Rimini.
Oui, tout à fait. De cet été-là, et oui, tout à fait. Ça tombe très bien.
Oui. C'est un peu le goût de l'Italie, comme on se l'imagine, l'Italie rêvée, imaginée.
L'Italie nonchalante aussi, là. Il y a de la nonchalance dans cette chanson, puis en même temps, ces accents désespérés.
Oui. Prego. En 1972, Jeanne Benhamer, on pouvait voir au cinéma Fellini-Roma, de Federico Fellini. On pouvait voir Pinocchio, de Luigi Comencini.
Ah ouais.
Et puis aussi, on pouvait voir Le Parrain de Francis Ford Coppola. C'est un extrait du Parrain, c'est magnifique hein, la musique.
Oui, j'entendais justement, j'écoutais.
Ça va bien aussi avec Rimini, cette musique? Ou non, pas tout à fait? Parce que dans cet extrait, il est question justement d'un retour, du retour de Michael Corleone.
C'est pas la même atmosphère.
Non, bien sûr.
Mais j'aime beaucoup cette musique.
Alors, jusqu'à 15h sur France Inter, c'est votre journée particulière, Jeanne Benhamer. Et donc, en 72, vous êtes avec votre mère en Italie, à Rimini, sur la terre de ses ancêtres. Ce voyage en Italie, vous l'aviez pensé pour l'aider à surmonter la disparition de votre père, de son mari. Et vous n'avez jamais oublié, Jeanne Benhamer, un jour particulier de ce mois d'août 1972. Ouais. Que s'est-il passé ce jour-là exactement?
Alors depuis notre arrivée, c'était moi qui prenais la parole pour demander ce qu'on avait à demander dans les restaurants, etc. Et donc je me débrouillais comme je pouvais et pas mal avec l'anglais, qui était la langue touristique, on va dire. Et puis ce jour-là, on était au restaurant et je ne sais plus ce que je voulais savoir sur la carte. Et donc, je m'apprête à faire comme d'habitude. J'appelle le garçon. Et là, ma mère me met la main sur le bras, avec un petit peu l'air de dire « Attends ». Et c'est elle qui prend la parole. Et elle prend la parole dans sa langue, en italien. Et bien sûr qu'elle parle italien, évidemment. Et donc, je l'entends parler. Elle entame une conversation et ce garçon de restaurant arrive même à la faire rire. Je ne sais pas ce qu'il se raconte, mais il arrive à la faire rire. Et ça, c'est quand même... c'était pas gagné.
Non.
Donc, je regarde tout ça et moi, je suis abasourdie parce que c'est la première fois que je prends conscience... Et ça passe vraiment par le corps aussi, par tout mon être, que ma mère est étrangère.
Et qu'elle est, en l'entendant parler cette langue.
Qu'elle est italienne, qu'elle est là, elle est dans cette langue-là. Et que c'est pas la langue que moi je parle.
Et ce n'est pas la langue que vous parlez ensemble. Votre mère ne vous a jamais parlé italien?
Elle nous a parlé italien quand on était très petits. C'est un peu la langue d'amour. De la très petite enfance, mais mon père, qui était donc arabe et qui voulait absolument l'intégration à fond hein, dans les années 60, voulait absolument qu'on parle français et qu'on parle le meilleur français qui soit. Et donc la langue italienne était bannie, simplement ça, bannie, c'est terrible. Et donc cette femme, elle ne parlait pas sa langue à la maison. Et là, tout d'un coup... je la vois parler italien avec des Italiens. Et c'est toute une dimension d'elle qui m'apparaît. Et c'est... ouais, c'est extraordinaire pour moi, ce moment-là. Je pense qu'à partir de là, je ne l'ai plus jamais vu de la même façon. J'ai compris quelque chose d'elle, qui était autre. Et je suis très partagée dans ce moment-là. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis émerveillée, mais en même temps, il y a une part de moi qui n'est pas contente du tout, parce que ben, elle échappe. Elle échappe, c'est pas la mère à laquelle je suis habituée. Vous voyez, j'ai les gestes des mains, oui. du toucher, qui viennent. Et voilà, et elle est aussi tout ça.
Ce n'est plus votre mère. La femme que vous voyez devant vous est une femme italienne qui parle sa langue, oui. une femme dans sa langue, une oui. étrangère. Elle vous est étrangère.
Il y a une part d'elle. Je ne peux pas dire qu'elle m'est étrangère, ce serait trop dire. Mais... il y a une part d'elle qui ne m'appartient pas. En à tout... moi, sa petite fille.
Oh oui, en voilà. Tout cas... voilà, c'est ça. En tout cas, pendant ce mois d'août, ce jour-là du mois d'août 1972, oui. la langue maternelle de votre mère vous sépare d'elle.
Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose comme ça. Oui, c'est une limite. Et ça fait... ça fait tiers, ça fait séparation. La langue fait le tiers. Il n'y a plus le père, mais il y a la langue.
Buongiorno, signor professore.
Buongiorno, signorina. Alors, votre visite dans les musées italiens ne vous a pas fait rêver?
Non, mais je rêve d'aller en Italie. L'Arazzo, la tapisserie, l'Intarsio, la marqueterie, lo smalto, les mailles, gli scavi, les fouilles. L'arco a sesto acuto, l'ogive. L'arco a tutto sesto, l'arc en plein cintre.
C'était un cours d'italien oui. pour vous, Jeanne Benhammer, pour retrouver, vous rapprocher.
Grazie mille.
De rien, c'était pour vous rapprocher un peu de votre mère. Est-ce que c'est à partir de ce jour-là que vous avez commencé à vous interroger sur votre langue?
Non.
C'est plus tard?
Oui. Oui, vraiment, c'est plus tard. Non, à ce moment-là, je suis dans le mouvement de ma propre jeunesse.
Ouais, oui.
J'ai 20 ans. Je suis beaucoup plus préoccupée par le corps que par la langue. Et c'est aujourd'hui, depuis quelques années, là, que ça me tourne autour et que, justement, je vais explorer le rapport de la langue et du corps. Parce que les deux marchent ensemble. À cette époque-là, non. Je prends les choses comme ça, je nage, je fais une allergie considérable.
À quoi?
Au soleil.
Non.
Si. Et alors, ce que me dit le médecin à l'époque, c'est qu'aussi, ils ont essayé de nettoyer la mer pour les touristes. Je n'ai jamais compris cette histoire. Et qu'ils ont mis des produits et que sans doute j'ai la peau trop fragile. Et donc, il me fait une espèce de pommade et je dois y aller tous les jours et c'est lui qui m'enduit de pommade. Et ça passe.
Quelle jolie histoire!
Et oui. Et donc, le corps et la langue, ça marche ensemble. Mais à l'époque, je ne le vois pas.
Non.
Je suis juste dans comment on peut faire pour que tout ça arrête ces démangeaisons et que je puisse retourner vite fait nager.
Oui, voilà. Parce que la mer est toujours là. Hein, dans votre... La mer oui. est là, présente. Elle
ah
va...
oui, moi j'ai besoin de nager, j'ai besoin de l'eau tout le temps.
On le lit dans votre écriture. L'océan oui. n'est jamais loin.
C'est présent, oui. On est arrivé en France à La Rochelle, j'avais 5 ans. Et donc j'ai eu cette enfance océanique qui me tient. Et pour moi, rien ne vaut aller respirer sur la plage, quoi.
Et c'est à votre arrivée en France quand vous avez 5 ans, parce que vous viviez en Algérie avec oui. vos parents. Donc votre père était tunisien, votre mère...
D'origine, oui. D'origine. Après, la branche de sa famille s'était déjà exilée. Mes parents viennent vraiment d'exil répété. C'est intéressant pour moi aujourd'hui de le voir. La branche à laquelle il appartient s'était déjà exilée, parce que toute la famille ne pouvait pas vivre sur les mêmes terres en Tunisie. Tout ça était assez féodal. Et donc, il était né en Algérie. Et moi, j'ai vécu, donc là où il était en poste, on avait bougé. Je suis née à Mlila et là, c'était à Tébessa, à la frontière tunisienne, dans le sud-est. Ma grand-mère vivait à Batna, dans les Aurès.
Et quand, c'est quand vous arrivez en France à 5 ans que vous entrez dans la langue française?
Non. Non, non, puisque moi, j'ai parlé français dès le départ. On parlait français à la maison. C'est pour ça que si je me demande quelle est ma langue maternelle, je me dis, c'est le français.
Bien sûr.
Puisque c'est comme ça que j'ai appris à parler, à écrire, etc. En même temps, il y a les autres langues qui sont là aussi.
Il y a l'italien.
Et il y a l'arabe aussi.
Il y a l'arabe.
Oui.
Il y a les langues des exils successifs, ce que vous me disiez justement.
Oui.
Qui tissent votre langue.
Oui.
Qui la rythment.
Je pense qu'il y a quelque chose, une résonance. Et je travaille beaucoup à l'oreille. Et j'ai besoin tout le temps d'entendre que ça sonne juste. Et je pense, oui, que dans le rythme et dans les sonorités que je choisis, certes, il y a, évidemment, je travaille avec la langue française, mais je pense qu'il y a des échos d'autres langues.
C'est en arrivant en France que vous entrez dans les livres, dans la lecture? C'est à l'école française, que vous découvrez la lecture?
Je découvre la lecture, oui, à ce moment-là, mais j'ai déjà appris, ma mère m'a appris à écrire et à lire avant que je n'arrive. J'ai appris très tôt, puisque j'ai demandé très tôt à entrer dans l'alphabet. Ça, je me le rappelle. C'est mon premier désir conscient. C'est les lettres de l'alphabet que je demande à ma mère. Je suis très petite.
Oui,
j'ai,
c'est ça.
J'ai 3-4 ans. Et alors, peut-être parce que mes frères et sœurs sont plus vieux que moi et que je les vois écrire, peut-être ça me donne envie, je ne sais pas. Mais je lui demande ça et elle a un petit tableau dans sa cuisine et elle me fait les lettres à la craie. Et je fais des lignes comme ça. Et je ne sais pas encore lire, mais j'apprends à écrire. En fait, je dessine.
Vous dessinez des signes qui sont des lettres.
Ouais.
Et le mot signe revient dans votre écriture, ouais, sans arrêt.
C'est vrai.
Vous ne parlez pas de lettres, vous parlez de signes.
Oui, mais je pense que voilà, c'est mon premier rapport à la chose écrite. Ça passe par ça, c'est-à-dire je ne sais pas déchiffrer ce que je trace. Mais je veux tracer. Et ça, c'est très fort en moi, cette nécessité. Ce qu'il y a de formidable, c'est que ma mère, qui n'avait pas lu Dolto, bien évidemment, elle se rend à ce désir. Elle y entre. Elle répond. Qu'est-ce qu'elle a senti de ma nécessité? Je ne sais pas. Mais elle le fait. Et sur les dernières années de sa vie, quand on en parlait, avec beaucoup d'humour, elle me regardait, elle disait « Eh ben, ça valait la peine ».
Ah, oh, c'est joli.
Ouais.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good.
You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Jeanne Benhamer, vous vous balancez, vous vous bercez sur Lou Reed.
Oui, j'aime beaucoup Lou Reed.
C'était en 1972 qu'il chantait Just a Perfect Day.
Oui, et c'est très doux.
Ouais.
Ouais.
Ça va avec votre voix.
Just a Perfect Day.
C'est la journée particulière de la poétesse Jeanne Benhamer. Sur France Inter, jusqu'à 15h. Est-ce que vous vous souvenez, Jeanne Benhamer, de Pierre Auvernet?
Ah oui, la mort de Pierre Auvernet, ça a été terrible.
Alors il faut rappeler qui était Pierre Auvernet, c'était un ouvrier, un OS, ouais. De Renault,
ouais.
Qui a été tué par un des vigiles de Renault, qui était un ancien adjudant-chef. C'était un militant de la gauche prolétarienne, il était en train de distribuer des tracts à l'entrée de l'usine. Et il a été tué. Il a été tué le 25 février 1972 et le 28 février 1972, Jean-Paul Sartre se rendait à la sortie de l'usine Renault pour dialoguer avec les ouvriers.
Pendant qu'Alain Gesmard, leader des maoïstes, dépose une gerbe à l'endroit même où vendredi Pierre Auvernet a été tué, Jean-Paul Sartre tente de dialoguer avec des ouvriers. Mais il a attendu en vain car les grilles de la porte Zola sont restées fermées. Pour Jean-Paul Sartre, c'est un aveu.
Quelle conclusion vous tirez que du fait que vous arrivez puis on ne les laisse pas sortir? Est-ce que...
Bah écoutez, ça me paraît clair. Tirez-la vous-même. C'est clair.
C'est-à-dire?
On ne veut pas que les ouvriers disent la vérité. Comme ils la diraient, on les enferme. Et puis est-ce que vous trouvez qu'une usine nationalisée doit être une usine où on enferme les ouvriers, on leur empêche de passer?
Est-ce que vous avez l'impression que cette vérité leur fait peur?
Les ouvriers n'ont pas peur de la vérité, mais l'usine ou la régie, oui. Très peur.
Quelle conclusion en tirez-vous?
On conclut d'abord qu'il y a eu un assassinat, qui est certain, que la régie en est responsable au premier chef, et deuxièmement que l'arme de cet homme n'était pas par hasard dans sa poche.
C'était la voix de Jean-Paul Sartre, ce 28 février 1972. Vous avez suivi ses obsèques? Il y avait des milliers de personnes qui ont accompagné le cercueil de Pierre Auvernet jusqu'au Père Lachaise.
Non, non, moi j'étais pas à Paris d'abord. Ah oui. À ce moment-là, en février 72, je vivais encore dans ma région. Je faisais mes études à Poitiers. Mais je me rappelle bien l'onde de choc que ça a été.
Jeanne Benhamer, vous avez travaillé aussi. Enfin, vous avez rencontré et vous avez consigné les paroles d'ouvriers d'ArcelorMittal, non, c'est ça?
Oui, j'ai rencontré les ouvriers d'ArcelorMittal et de chez Godin aussi, les poêles Godin qui ont été rachetés par les cheminées Philippe. Et oui, ça c'était beaucoup plus tard, c'était avant d'écrire Les Insurrections singulières. J'avais accepté de me rendre à l'invitation d'une association qui s'appelle La Forge, qui est issue de mai 68 en fait, hein, et qui continue à interroger la société par le biais de l'art, donc aussi bien la photographie, le théâtre et l'écriture. Et donc ils invitent un romancier, et ils m'avaient invité, à faire ce qu'on appelait des ateliers de parole avec ces ouvriers de chez Arcelor. Arcelor avait été repris par Mittal, et donc ils fermaient des lignes de travail, des lignes d'atelier, parce que, bah, tout simplement, il s'était rendu compte que le fer au Brésil revenait moins cher et que ça ferait donc plus d'argent dans les poches des actionnaires. Et cette roue-là du capitalisme fou avait tourné et je me suis retrouvée devant des gens qui avaient plus de 50 ans, qui savaient qu'ils ne retrouveraient pas de travail, qui avaient une dignité, mais exemplaire, qui vraiment, moi, m'a profondément... marqué. Il n'y avait pas d'apitoiement, il y avait vraiment bien autre chose et bien plus profond que ça, ce qui se passait. Seulement, c'était des gens qui étaient atterrés. Et je me suis retrouvée avec eux dans un café, j'ai bu de la bière, et petit à petit, on est entrés en parole ensemble. Voilà, Et ça, ça a été un moment de ma vie que je peux pas oublier, qui est extrêmement important, très ravivé aujourd'hui par tout ce qui se passe, bien évidemment, hein. Et où en même temps, peut-être, je refaisais le lien avec toute cette famille de ma mère, qui était des ouvriers, mon grand-père mineur, voilà. Quelqu'un qui a su ce que c'était que descendre à la mine, et ma mère, elle a su ce que c'était que se lever tôt le matin, travailler avec ses parents, et voilà, ils avaient un petit café après. Et elle a travaillé là, très jeune. Et c'était fort, oui.
Vous en avez fait donc un livre, Les Insurrections Singulières, qui raconte la Renaissance, oui, par le livre. C'est un ouvrier qui découvre la lecture et qui du coup va oser changer, oui, changer de vie. Et c'est toujours, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce qui nourrit votre écriture, la découverte des signes, entrer dans le langage. Vous nous rappelez qu'un livre, ça peut changer une vie.
Oui, et je le crois et je le dis fermement. Le verbe, c'est puissant. Ça n'est pas la cerise sur le gâteau. Ça peut changer une vie. Alors, ça fait pas des changements de vie spectaculaires, mais ça change à l'intérieur de soi. Et du coup, ça permet de prendre l'audace de sa propre liberté. Et ça m'intéresse au plus haut point.
La sensation pousse la forme. Je ne me dis pas, je vais le faire dans telle ou telle forme. La forme vient d'elle-même. La forme n'est que le... N'est-ce pas? C'est le mouvement même de ce qu'on ressent. Je sens quelque chose et il faut que je trouve des mots à travers lesquels je pourrais le faire passer. Ça, je l'ai décrit en détail entre la vie et la mort, justement, quand l'écrivain cherche à faire passer la sensation dans des mots. Alors, s'il travaille, il travaille trop la forme, il oublie la sensation, c'est là qu'il commence à faire de la copie d'ancien. Parce qu'il cherche la belle forme harmonieuse à laquelle il est habitué. Il fait de la belle forme académique que les gens adorent. Mais la sensation, à l'état pur, n'y est plus. Il est pris dans son langage académique et ravissant, il est ravi. Ce sont des moments de volupté, je dirais. Puis le lendemain, quand il le revoit, s'il est un véritable écrivain, il voit que c'est mort. C'est du beau texte mort. Du beau texte harmonieux, avec de ravissantes retombées, mais il est mort. Alors il est obligé de tout défaire et de revenir au ressenti.
Jeanne Benhammer, je vous vois hocher de la tête. Vous reconnaissez dans les paroles de Nathalie Sarraute.
Ah bah c'est tellement juste. C'est tellement juste ce qui est dit là. Il n'y a quasiment rien à y ajouter, quoi. Elle dit très exactement les choses et c'est exactement ça. C'est quand on essaie de faire du beau, voilà, c'est mort.
C'est mort.
Oui.
Et d'aller vers la sensation, vers le mouvement. Alors le mouvement intérieur ou le mouvement du signe dont vous parliez tout à l'heure sur le tableau?
Alors, enfin, moi quand je travaille, j'ai besoin de sentir à l'intérieur de moi. Je veux pas dire une plongée, parce qu'une plongée, ça va trop vite. Mmh. Alors qu'en fait, le mouvement, il est très lent. C'est une descente par strates à l'intérieur, jusqu'à une espèce de, je sais pas quoi, de lac opaque. Je vois les choses un peu comme ça. Il y a des choses qui doivent émerger, et elles émergent lentement. Et le travail, moi, mon travail, parfois épuisant, c'est d'aider à la remontée. À la remontée de ces perceptions que j'imagine être là avant le langage, avant les signes. C'est ça que je cherche tout le temps. L'état d'infance, celui qui ne parle pas encore. Ce moment très étroit dans nos vies, entre la première prise d'air, on sort du ventre de la mère, et puis le moment où on va pouvoir entrer dans le langage, articuler quelque chose, avec notre propre souffle. Là, on a un petit temps. Ça dépend des gens, hein. Voilà. Mais on n'a pas grand-chose. C'est court. Et moi, ça m'intéresse, ça, ce temps-là. c'est-à-dire le temps d'avant, je me rends compte que c'est le temps d'avant toutes les langues. C'est ça que je cherche. Et c'est dans le corps. Et donc après, mon travail, c'est de, ce que dit très bien Nathalie Sarraute, évidemment, c'est de trouver les mots, le rythme, la forme juste pour dire ça.
Vous parlez de lac sombre.
Oui.
Au fond.
Oui.
C'est un magma d'une certaine manière.
Oui.
Comment dissocier dans l'ombre ce que l'on va faire remonter à la lumière? Comment ça se fait? Vous ne savez pas ce que vous allez trouver?
Non.
Devant ce lac?
Eh bien, mais c'est ça qui est intéressant dans l'écriture. Et c'est ça aussi qui fait reculer tant de gens devant leur propre écriture.
Ben, on a peur?
Eh bien oui, c'est la peur. Et c'est ça aussi qui peut faire reculer un lecteur. Parce que quand vous lisez, vous allez jusque-là aussi. Si en face, on vous a donné un vrai texte, si vous avez un vrai texte, un vrai écrivain, on va dire, hein, eh bien forcément, ça va aller aussi dans votre lac à vous, faire venir des choses. Et on peut comprendre qu'on soit d'une prudence parfois trop grande. Mais l'écriture, c'est une aventure, mais vraiment au sens fort du terme. Sinon, ça m'intéresserait pas. Bien sûr que je ne sais pas ce que je vais trouver. Mais quelque chose de plus fort que la peur me fait aller. Et j'y vais.
Alors, on a envie de vous entendre dans ce dernier texte qui a été publié aux éditions Bruno Doucet, qui est de la poésie.
Oui.
Qui s'appelle « L'exil n'a pas d'ombre ». Est-ce que vous pourriez me lire un passage? Alors,
bien
moi,
sûr.
Il y en a plein que j'aime.
Alors, dites-moi.
Eh bien, j'aime beaucoup celui-là, page 38. C'est la vie des signes que je porte en moi. J'ai mis...
Et que j'aille jusqu'où?
Jusqu'où on a envie. Allez-y, on verra.
C'est la vie des signes que je porte en moi. Ils ont déchiré mon livre, mais tous les signes qui vivent en moi, personne ne peut y toucher. C'est ma liberté. Entière, secrète. C'est la liberté de chacun qui veut bien tenter l'aventure. Que l'on soit homme, femme, qu'importe. Les signes se donnent à celui qui veut bien les accueillir, tout au fond de lui. Et les signes nous transforment. C'est cela, le bonheur de chaque jour. Mon livre a ouvert en moi des espaces inconnus. J'ai écouté résonner chaque mot jusqu'au fond de mes os. J'ai vu des choses que mes yeux ne peuvent pas voir. C'étaient les images que chaque mot apportait avec lui. J'ai été ravie, oui ravie, au monde des tâches pleines du village. Quand j'allais chercher mon eau au puits, mes yeux étaient loin. Je rêvais, c'étaient les mots. Je me découvrais, neuve aussi. Et neuf mon regard sur chaque chose quand je revenais de mes rêves. C'est cela, vivre.
Que rajouter à ça, si ce n'est que c'est une façon de vous dire, comment vous dire mieux que cette lecture, Jeanne Benhammer, vous êtes tout entière dans ces mots.
Oui.
C'est ce que vous êtes. Et c'est votre raison de vivre.
C'est comme ça que je vis. Oui. C'est ma vie, oui. C'est comme ça, depuis le début.
Depuis le tout début, depuis ce tableau-là avec les signes, ça m'a marqué avec votre mère.
Oui, depuis que je suis entrée dans les signes. Et ça, c'est... Enfin, moi, je trouve magnifique pour nous qui avons la chance de pouvoir aller vers les livres, partout. Il y a des médiathèques, il y a des librairies, il y a tout ce qu'on veut pour aller vers les livres. Et de pouvoir, comme ça... tenter, retenter l'aventure à travers des écritures diverses, parce que quelquefois l'écriture de quelqu'un, sa façon de nous emmener, ne nous convient pas. Alors c'est pas grave, il y a quelqu'un d'autre, et c'est ça qui est formidable. Il y a quelqu'un d'autre, on peut choisir.
Ouais. Qui nous emmènera pour faire le chemin.
Oui.
Et le chemin vers quoi?
Eh ben, on le découvre en le faisant, hein, le chemin.
Vers le soleil?
Moi, je pense toujours, oui, parce que j'ai une espèce de, je sais pas quoi, s'il faut appeler ça optimisme, ça me plaît pas trop comme terme. C'est plus vigueur qui me plaît. Il y a une vigueur chez moi qui va vers la lumière. Oui. Donc, moi, j'aime bien qu'on aille vers, vers la liberté. La liberté surtout. Jamais assez grande. Et dans la liberté, il y a de la ténèbre, mais il y a de la lumière, oui.
Et c'est pour ça que l'exil n'a pas d'ombre ?
L'exil n'a pas d'ombre, c'est parce que c'est le moment où on est pile sous le soleil. Et voilà. On est obligé, là, d'accepter de ne pas avoir d'ombre. C'est très difficile.
C'est là que vous cherchez à être. Pile sous le soleil.
Oui.
Paris 2017, j'ai dans la gorge comme un arrière-goût des années 90 dans le 83. De l'ampleur, pas d'empereur, même si l'empire est là. Tous à dire trop beau, pieds noirs et renois. We don't give a fuck and we pray every day. Ici j'ai tout fait, je sens plus mes doigts. Pourquoi la France est venue me chercher, mais ne veut pas de moi?
Journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Jeanne Benhamer, en 1972, l'écrivain italien Dino Buzzati disparaît. En 72, c'est l'année de la tuerie à Londonderry en Irlande du Nord. Bloody Sunday, des manifestants pacifistes des droits civils et des passants ont été pris pour cible par des soldats de l'armée britannique. Le 8 mars 1972, journée de la femme, la loi qui autorise la contraception entre en vigueur. En France. Ah. Au printemps, c'est le début de l'affaire du Watergate qui provoquera la chute de Nixon 2 ans plus tard. 1972, c'est l'année du programme commun. Le PC, le PS signe le programme commun, ouais. Et en septembre 72, peut-être vous en rappelez, 11 athlètes israéliens sont tués lors d'une prise d'otage aux Jeux Olympiques de Munich. C'est tout ça. L'année 1972, c'est aussi le procès de Bobigny, où Gisèle Halimi défend une jeune fille de 16 ans qui a avorté à la suite d'un viol. C'est une année chargée, l'année 1972, Jeanne Benhamer.
Oui, je fais le parallèle entre l'entrée dans la contraception légale, l'avortement,
ouais,
qui est encore... sous le coup de la loi, enfin bon, c'est... Et puis bien sûr, tout ce qui se passe dans les rues et dans les insurrections.
Et il y en aura d'autres, on va en parler. Plus léger, en 1972, Stone et Chardin chantaient La Ventura.
C'est la vie que je mène avec toi.
Voilà. Maxime Le Forestier, c'est une maison bleue.
Ah, ça j'adore.
Véronique Sanson sortait son premier disque. Et nous avions tous dans un coin de notre tête cette petite musique-là. C'est Popcorn, Jeanne Benhamer. C'est drôle.
J'ai oublié cette chose-là.
Moi aussi. Hein. Quel plaisir de la réentendre,
oui,
non
oui.
On sautille.
C'est drôle, oui, c'est ça, c'est drôle.
Alors, alors ça peut-être, je suis sûre que vous en souvenez, en juillet 1972, juste avant que vous ne partiez avec votre mère en Italie, Jeanne Benhamer, les paysans du Larzac manifestent à Rodez contre l'extension du camp militaire.
Cafés, magasins, restaurants et hôtels avaient fermé leurs portes hier à Rodez. La ville, cependant, avait des allures de kermesse. Étudiants, agriculteurs, organisations syndicales, maires, députés, un défilé s'étirant sur près de 2 km contre l'extension du camp militaire du Larzac. À la tête de cette manifestation, les exploitants agricoles menaçaient d'expulsion.
Vous écoutez Pensive, vous avez manifesté, vous vous rappelez de ces...
Oui, les années 70, c'est les années où j'ai ouvert la porte à une conscience politique. En fait, hein. Avant, j'étais tranquillement installée, si je puis dire. En fait, c'était pas tranquille.
Non. Alors,
mais j'avais trouvé refuge, je ferais mieux de dire ça, dans les études. Et je sortais pas beaucoup des textes. Et puis, l'arrivée à la fac, ça a ouvert des choses chez moi, les rencontres. Et voilà, une conscience politique. Et j'ai fait mes premières manifestations. Ben oui.
Dans ces années-là.
En 70. Oui.
C'est ça qu'on entend. C'est ce son-là qu'on entend, le son des années 70. Oui. Le son de la révolte, qui est différent de celui d'aujourd'hui. Le son de l'insurrection, toutes ces insurrections dont vous parliez.
Oui.
Et alors, vous allez voir, on ne peut pas éviter de faire des comparaisons avec aujourd'hui. En 1972, on parlait aussi salaire minimum et fin de mois difficile.
Demain, journée nationale d'action CGT-CFDT. Il y aura peu de perturbations dans les services publics. Cette journée nationale a pour motif deux revendications principales. La retraite à 60 ans avec 800 francs par mois et le SMIC à 1000 francs. Beaucoup de familles françaises, en effet, n'ont pas 1000 francs par mois pour vivre. En voici un exemple.
Je suis veuve avec trois enfants à charge, dont l'aîné a 15 ans. Je travaille dans une maison d'alimentation. Quand je vais faire mes achats... J'achète pas le minimum, mais entre les deux, si vous voulez. Je calcule pour pas dépasser ce que je dois dépenser.
Madame,
c'est combien votre foie de veau, s'il vous plaît?
36 francs le kilo.
Vous n'avez pas moins cher?
Si, j'ai du foie de génisse.
Si, mais puis je vais prendre 3 tranches de foie de génisse, s'il vous plaît.
L'habillement, j'ai des amis qui me donnent des habits. Ce qui me rend très service d'un côté, qui me dépanne. Et je suis assez... soigneuse, et ma foi, je fais attention, je raccommode le plus possible.
Est-ce que vous partez en vacances, vous sortez un peu?
Moi, pas du tout. Jamais je suis allée en vacances, je ne peux pas me le permettre. Les enfants portent en colonie de vacances, leur changer d'air et détendre. Tant qu'à moi, jamais je suis allée en vacances.
Autrement dit, c'est la vie un peu au jour le jour, quand même.
Ah oui, ça, je vis au jour le jour, ça, je vous le dis en toute franchise.
Des familles comme celle de Françoise, il y en aurait environ 2 500 000 en France. Un salarié sur 8 gagnerait moins de 1 000 francs par mois.
Jeanne Benhamer, ça laisse songeur, non? Ce reportage de 1972.
Oui, oui, oui. Et l'expression « faire attention », cette dame qui dit « je fais attention », une expression comme ça. « Faire attention à chaque chose parce que ça coûte cher ». Et ça, c'est terrible, parce que ça veut dire que on ne porte plus son attention sur la vie même, on est obligé de la porter sur ce qui permet de survivre. C'est bien ça qui se passe aussi aujourd'hui pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup trop. Et c'est cette demande que moi j'entends de pouvoir porter son attention sur la vie même et arrêter d'être toujours, toujours, toujours resserré dans survivre et pas vivre. Et ce qui me frappe aussi, moi, dans les années 70, c'est que dans ces années-là, on a parlé écologie de façon extrêmement forte. On a parlé aussi arrêt de cette consommation folle dans laquelle on nous lance. Et on est parti dans les années 80 dans une espèce de folie comme ça, meurtrière pour les gens. Et aujourd'hui, c'est comme si on revenait un petit peu au point zéro. Et aujourd'hui, il faut qu'on invente. Ouais. Il faut qu'on invente. Hein. On n'a pas d'autre solution.
Non.
On est dans l'invention.
Espérons qu'on le sera.
On l'est déjà.
Oui, c'est vrai. En le disant, c'est ce que je pensais.
Ouais. Il y a des lieux partout en France où il y a des gens et des gens jeunes aussi qui essaient des choses nouvelles. Et c'est difficile, mais ça existe.
Merci, Jeanne Benhammer, d'avoir passé cette heure délicieuse avec nous. Peut-être, à vous écouter, vous nous donnerez le courage de plonger dans nos lacs singuliers que nous avons chacun au fond, quelque part, pour en faire rejaillir, ressortir.
Ça serait beau.
Les mots et les signes que nous portons.
Merci beaucoup à vous pour vos questions et puis la façon dont s'est déroulée cette émission. Bien agréable pour moi. Oui.
Merci Jeanne. Votre dernier livre, donc livre poème, L'exil n'a pas d'ombre, est publié aux éditions Bruno Doucet. Sur le site de l'émission, on pourra retrouver toutes les autres références de vos romans et de vos livres chez Actes Sud, entre autres. Chez
Actes Sud. Le prochain. Oui.
En septembre.
En septembre chez Actes Sud, ceux qui partent.
On sera là. C'était une journée particulière, une émission préparée par Rebecca de Nantes, Alina Anne de Lavaux, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale le génial Djoubaka et à la technique aujourd'hui Nicolas Delmas. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de franceinter.fr.